Alors, on commence tout de suite. Quand on est queer, on se retrouve souvent avec deux familles. Je fais une blague, mais c'est quand même intéressant parce que vous allez voir le sujet dont on va parler par la suite. Alors, on a notre famille assignée à la naissance qui nous est imposée, bien franchement, qui n'est pas toujours saine, pour ne pas dire toxique. Je sais de quoi je parle. Et celle qu'on se construit, ce qu'on appelle la famille choisie. Et avec les années, cette famille est celle dont on prend soin et qui, en retour, prend soin de nous. On appelle ça aussi de la proche aidance. Julien Rougerie est chargé de programme à la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission et à la balado, Julien.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, avec toi, on utilise quel pronom et quels accords?
Alors, je m'appelle Julien, j'utilise le pronom « il », accord masculin.
Tout à fait. Alors, tu es chargé de programme, dont celui qui s'intitule « Famille choisie ». C'est quoi ce programme?
Alors, à la base, on l'a créé en 2019. C'est un programme d'accompagnement et de soutien des personnes qui sont proches aidantes et LGBTQ+. Puis avec le développement du programme, c'est aussi devenu un programme de sensibilisation pour les milieux de la proche aidance, afin que ces milieux-là soient plus inclusifs de la diversité sexuelle et de genre. Donc le soutien aux personnes proches aidantes, santé, services sociaux, etc.
Bon, la proche aidance, c'est important. Définissons, c'est quoi la proche aidance aussi?
La proche aidance, on a travaillé avec le gouvernement pour la nouvelle définition à l'automne 2022.
Oui.
Donc c'est toute personne qui accompagne une autre personne qui est en perte d'autonomie, avec qui elle entretient des liens affectifs. Et nous, on a milité pour qu'il rajoute qu'il soit familial ou non, puisqu'on a tout de suite cette image de famille biologique, entre guillemets, qui est à déconstruire, puisque la proche aidance, c'est pas que la famille biologique. Ça inclut parfois d'autres réseaux sociaux qu'on peut avoir, notamment les amis. Et les personnes qui sont proches aidantes et LGBT, elles aident trois fois plus leurs amis que la moyenne des proches aidants.
C'est intéressant comme statistique. Mais quand même, ce qui est important, c'est que ce que vous avez fait à la Fondation, d'avoir amené ces liens affectifs, ça a aussi un impact sur les personnes hétérosexuelles parce que là aussi, il y a ce genre de situation.
Absolument. Ce qui est très vrai pour les LGBT est aussi vrai pour le reste de la population.
Et trois fois plus. Ça, je ne savais pas.
Ouais,
c'est vraiment une statistique intéressante.
On a fait un sondage léger marketing l'année dernière auprès de 1000 personnes proches aidantes.
Ouais.
C'était 9% des proches aidants qui disaient aider un ami. Alors que c'était 29% des personnes qui étaient proches aidantes et LGBT qui déclaraient être proches aidants pour une amie ou un ami.
J'ai fait une blague, mais ce n'en est pas une au départ quand j'ai présenté le sujet. Quand j'ai dit, il y a la famille assignée à la naissance, la famille biologique, et il y a aussi la famille qu'on se construit. Et parce que souvent, les personnes LGBT n'ont pas toujours de bonnes relations avec la famille biologique.
C'est ça. Il y a parfois des situations où les personnes doivent se détacher de leur famille, hein, s'éloigner elles-mêmes parce qu'elles ne se sentent pas tout à fait elles-mêmes. Elles ont besoin de faire un propre travail d'acceptation sur soi-même. Et puis des fois, la famille n'est pas le meilleur allié par rapport à ça. Et il y a aussi des personnes qui sont carrément rejetées par leur famille. Donc c'est une réalité chez pas mal de personnes LGBT d'être de toute façon coupées de leur réseau familial à cause du rejet qu'elles peuvent y subir.
Donc, quelle sorte de formation offrez-vous à la Fondation Émergence?
Alors, ça s'ancre un peu dans notre culture de formation habituelle. Donc là, c'est les milieux santé, travail social et proche aidance. On commence toujours par c'est quoi la diversité sexuelle et de genre, parce que parfois, il faut commencer dès le début.
Il faut commencer par le B.A.B.A. Hein?
Exactement. Oui. On parle ensuite, c'est quoi les réalités de la proche aidance lorsqu'on est une personne proche aidante LGBTQ+. Hein? Faut en prendre en compte le parcours de vie des personnes. Faut prendre les réalités statistiques comme celle, par exemple, l'aide des amis plutôt que au sein d'une relation conjugale ou familiale. Et on voit ensuite, c'est quoi les bonnes pratiques? Comment on peut faire pour mieux accompagner ces personnes et faire en sorte de les rejoindre? Parce que les personnes qui sont proches aidantes et LGBT, malheureusement, elles vont moins vers les services d'aide que la moyenne des proches aidants parce qu'elles ne sont pas sûres d'être parfaitement à l'aise ou en sécurité à l'idée de fréquenter ces milieux-là ou que la personne qu'elles accompagnent soit à l'aise, en sécurité, d'avoir de l'aide extérieure.
C'est terrible ce que j'entends là. Alors, je pense qu'on va le rephraser pour qu'on le comprenne tout le monde. Donc, ça veut dire que d'abord, la personne qui est proche aidante n'est pas à l'aise de s'identifier devant des services de soutien aux proches aidants. C'est grave, ça.
C'est ça. Et parfois, c'est la personne qu'elle accompagne qui ne va pas être à l'aise d'être ouvertement LGBT.
Oh my God.
Puis supposons qu'on soit en relation de couple avec cette personne-là. Nous, on a un participant à notre programme Famille Choisie qui disait « Pendant 25 ans, j'ai dû me faire passer pour le demi-frère de mon conjoint. » Imaginez la charge mentale que ça peut être d'accompagner une personne avec qui on partage sa vie, son quotidien, mais de mentir sur la nature du lien qui vous unit à cette personne-là.
Alors, si je comprends bien, le problème, il vient des deux sources. D'abord, le fait qu'on est peut-être on donne pas l'impression d'être accueillant vis-à-vis ces personnes-là. Peut-être qu'on ne l'est pas du tout, là, mm-hmm. C'est déjà ça. Donc, il y a ce problème-là. Et l'autre problème, je me sens pas à l'aise, moi, de parler aux gens.
C'est voilà. Ça. Et puis, pour complexifier le tout, il y a aussi une notion sociétale et dans l'approche où on considère forcément que c'est la famille biologique qui va être le réseau de soutien des personnes. Et tout ce qui est inclusion à la diversité sexuelle et de genre en général, qui n'est pas toujours tout le temps en rendez-vous. Et donc, ça ne suffit pas à mettre les personnes à l'aise, en sécurité. Donc, elles évitent d'en parler, quitte à éviter les soins de santé et les services sociaux.
Donc, en 2023, ce genre d'homophobie, qu'elle soit une homophobie réelle ou une homophobie intériorisée, ça existe encore.
Ah oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail pour défaire toute cette culture.
J'espère qu'il y a du bon financement à la Fondation pour garder ce poste-là pour toi.
Mais en ce moment, on est aidé par le ministère de la Santé et des services sociaux dans le cadre de ce programme-là, oui.
Alors, pourquoi aller en région dans le cadre de votre tournée, là?
Pourquoi ne pas aller en région? En fait, les enjeux LGBT, ce sont les mêmes à Montréal qu'en région, sauf qu'à Montréal, on a la chance d'avoir un petit peu plus de services. Et encore, quand on est dans les milieux aînés, proches aidants, il n'y a pas grand-chose, hein, même à Montréal, hein, dans les résidences à Montréal, tout le monde est pas mal dans le placard, comme en région, finalement.
Moi, je t'ai vu dans un documentaire, justement, avec Danny Turcotte, ouais. Où on parle que les gens retournent dans le placard quand ils vont en résidence.
C'est ça. Dès qu'on sort d'un public jeune, plus ou moins favorisé, urbain, en fait, il y a une absence de service, une absence de visibilité. Or, il y a autant de personnes LGBTQ+, en région que à Montréal. Donc, vu que c'est un programme pan-québécois, on offre nos formations à Montréal, mais aussi en région, bien entendu. Puis on fait des formations comme ça pour rentabiliser un peu les déplacements.
Comme je m'adresse à un public pan-canadien, je vais quand même poser cette question-là de risque de me faire taper dessus, mais est-ce que c'est pire en région que ça l'est à Montréal?
Vis-à-vis de la situation des personnes proches aidantes?
Oui.
C'est une très bonne question. Moi, je dirais... Mais là, je travaille aussi beaucoup dans les milieux aînés. Dans les milieux aînés, en tout cas, j'ai envie de dire non. Parce que qu'on soit au centre-ville de Montréal ou en région, finalement, dans les milieux aînés, c'est l'invisibilité quasi totale du 10% des personnes qui sont
queer.
Usagers, usagères de ces services-là et qui ne sont pas à l'aise et pas en sécurité d'être ouvertement qui elles sont. Mais à Montréal, il y a quand même plus d'offres de services des communautés. Il y a un quartier gay, il y a des ressources comme ça qui existent et qu'il n'y a pas en région.
Alors là, j'ai une question qui est peut-être d'actualité, mais je pense qu'il faut en parler. Comment le climat toxique dans lequel on vit actuel? Parce qu'on va en parler, les complotistes anti-vax qui ont trouvé une nouvelle cible, les drag queens, et par extension, les personnes trans et les personnes queer en général. Est-ce que ça joue dans ce genre de situation-là?
Alors, c'est pas quelque chose que moi je remarque directement, vu que je gravite quand même pas mal dans les milieux institutionnels, santé, services sociaux. Donc, c'est quand même des milieux relativement protégés par ce genre de théorie complotiste, mais oui, ça arrive sur les réseaux sociaux, etc. Même dans certains médias où je suis invité, parfois, il y a cette fameuse question-là sur les drag queens, ce système à double standard où ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils sursexualisent les drag queens parce qu'on est sur un élément de diversité sexuelle et de genre, parce qu'on a tendance à hypersexualiser les personnes LGBT. Donc même dans le cas d'une performance artistique qui est dans le cas des drag queens, finalement, ils sursexualisent un contenu qui n'est pas sexuel, bien entendu. Mm-hmm. En tout cas, pas dans des spectacles pour enfants.
Enfant, ouais.
Et je pense que c'est à la base un biais homophobe ou transphobe, effectivement, cette polémique sur les drag queens.
Oui, ça fait peur quand même. Mm. Alors, on en a glissé un mot tout à l'heure. Comment ce programme-là est-il financé?
Alors, il est financé depuis 2019 par l'Appui. Donc, l'Appui, hein, c'est un organisme qui finance des organismes communautaires qui viennent en soutien aux personnes proches aidantes. Donc, ça, c'est le cas depuis 2019. Et puis, depuis l'année dernière, on a une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux qui nous aide à offrir nos formations pour les intervenants santé, services sociaux et milieu de la proche aidance. Donc, on a deux volets, un volet sensibilisation des milieux et un volet accompagnement, soutien psychosocial pour les personnes proches aidantes LGBT.
C'est fantastique, ça va beaucoup aider. Et comment ce programme-là est-il complémentaire? Parce que je sais, Julien, que tu as aussi un autre chapeau avec le programme pour que VIH soit gay. Alors, comment c'est complémentaire, ces deux programmes-là?
Oui, en fait, c'est la question des aînés LGBTQ+, qui nous ont amenés vers la question des personnes proches aidantes LGBT. Parce qu'on a vu souvent, oui, il y a les personnes aînées qui ne se sentent pas finalement en sécurité d'exister dans les milieux qu'elles fréquentent, mais parfois on a vu qu'il y avait aussi des enjeux vis-à-vis des personnes qui les accompagnaient, de la reconnaissance d'un ami, d'un conjoint avec qui on n'aurait pas de lien conjugaux formel, entre guillemets. Donc c'est là que ça nous a amené vers la question du réseau de soutien des personnes qui sont aînées. Et donc, ça nous a amené vers le sujet des personnes proches aidantes, même si on n'a pas besoin d'être une personne aînée pour être proche aidant ou bénéficier des services d'un proche aidant.
Oui, parce qu'on peut être une personne très jeune comme moi, par exemple, et aider d'autres personnes.
Absolument.
Ouais. Bon, on arrête ça là. Les mensonges ici, on ne fait pas de la désinformation ici. Je rigole, mais on va voir cette belle gang-là. Parce que là, vous sortez, c'est pas par Zoom, vous sortez, vous allez en région.
Alors, c'est ça. On le fait aussi en virtuel, mais on privilégie le présentiel au maximum.
Alors, c'est où la prochaine formation là?
Alors, on part en Abitibi-Témiscamingue à la fin de ce mois-ci.
D'accord, fin du mois de mai.
À la fin du mois de juin, ce sera la Côte-Nord. Et on reprend les tournées au mois de septembre. Là, j'ai plus l'ordre des régions, mais on est prévu de passer un petit peu partout.
Et vous partez, donc, c'est quoi? C'est quelques jours de formation, c'est ça?
En général, c'est plusieurs formations, entre 2, 3, 4 formations qu'on répartit sur une semaine.
Et puisqu'on s'adresse à un public pan-canadien, j'imagine qu'éventuellement, ça pourra être disponible pour d'autres publics francophones à l'extérieur du Québec.
Absolument. On a fait des tournées dans le cadre du programme Pour que Vire soit gay à l'extérieur du Québec. On pourrait faire ça sur demande pour des milieux francophones à l'extérieur du Québec.
Il faut s'inscrire?
Oui, fondationemergence.org ou Facebook, vous avez les dates des formations qui arrivent en Abitibi et en Côte-Nord.
Eh bien, Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Émergence, donc pour le programme Famille Choisie et Pour que vieillir soit gay.
C'est ça.
Fait plusieurs tableaux. Et je vous dis tout de suite, il est très jeune. Alors, c'est pas une vieille personne, et ce qui n'est pas un problème d'être vu en principe. Là. Alors, merci d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Merci beaucoup.